Albertine disparue, chapitre 3. Séjour à Venise. Ma mère m'avait emmené passer quelques semaines à Venise, et, comme il peut y avoir de la beauté, aussi bien que dans les choses les plus humbles, dans les plus précieuses, j'y goûtais des impressions analogues à celles que j'avais si souvent ressenties autrefois à Combray, mais transposées selon un mode entièrement différent et plus riche. Quand, à 10 heures du matin, on venait ouvrir mes volets, je voyais flamboyer, au lieu du marbre noir que devenaient en resplendissant les ardoises de Saint-Hilaire, l'ange d'or du campanile de Saint-Marc. Rutilant d'un soleil qui le rendait presque impossible à fixer, il me faisait avec ses bras grands ouverts, pour quand je serais, une demi-heure plus tard, sur la piazzetta, une promesse de joie plus certaine que celle qu'il put être jadis chargé d'annoncer aux hommes de bonne volonté. Je ne pouvais apercevoir que lui tant que j'étais couché. Mais, comme le monde n'est qu'un vaste cadran solaire, où un seul segment ensoleillé nous permet de voir l'heure qu'il est, dès le premier matin, je pensais aux boutiques de Combray sur la place de l'église, qui, le dimanche, étaient sur le point de fermer quand j'arrivais à la messe, tandis que la paille du marché sentait fort sous le soleil déjà chaud. Mais, dès le second jour, ce que je vis en m'éveillant, ce pourquoi je me levais, parce que cela s'était substitué dans ma mémoire et dans mon désir au souvenir de Combray. Ce furent les impressions de ma première sortie du matin à Venise où la vie quotidienne n'était pas moins réelle qu'à Combray, où, comme à Combray, le dimanche matin, on avait bien le plaisir de descendre dans une rue en fête, mais où cette rue était tout en une eau de saphir, rafraîchie de souffle tiède, et d'une couleur si résistante que mes yeux fatigués pouvaient, pour se détendre et sans craindre qu'elle fléchît, y appuyer leur regard. Comme à Combray, les bonnes gens de la rue de l'Oiseau, dans cette nouvelle vie aussi, les habitants sortaient bien des maisons alignées l'une à côté de l'autre dans la grande rue. Mais ce rôle de maison, projetant un peu d'ombre à leurs pieds, était, à Venise, confié à des palais de porphyre et de jaspe, au-dessus de la porte cintrée desquelles la tête d'un dieu barbu, en dépassant l'alignement comme le marteau d'une porte à Combray, avait pour résultat de rendre plus foncé par son reflet, non le brun du sol, mais le bleu splendide de l'eau. Sur la piazza, l'ombre qu'eussent développée à Combray la toile du magasin de nouveautés et l'enseigne du coiffeur, c'étaient les petites fleurs bleues que sème à ses pieds sur le désert du dallage ensoleillé le relief d'une façade renaissance. Non pas que, quand le soleil tapait fort, on ne fût obligé, à Venise comme à Combray, de baisser au bord du canal des stores. Mais ils étaient tendus entre les quadrilobes et les rinceaux de fenêtres gothiques. J'en dirai autant de celle de notre hôtel, devant les balustres de laquelle ma mère m'attendait, en regardant le canal, avec une patience qu'elle n'eût pas montrée autrefois à Combray, en ce temps où, mettant en moi des espérances qui depuis n'avaient pas été réalisées, elle ne voulait pas me laisser voir combien elle m'aimait. Maintenant, elle sentait bien que sa froideur apparente n'eût plus rien changé, et la tendresse qu'elle me prodiguait était comme ces aliments défendus qu'on ne refuse plus aux malades quand il est assuré qu'ils ne peuvent guérir. Certes, les humbles particularités qui faisaient individuelle la fenêtre de la chambre de ma tante Léonie sur la rue de l'Oiseau, son asymétrie à cause de la distance inégale entre les deux fenêtres voisines, la hauteur excessive de son appui de bois, et la barre coudée qui servait à ouvrir les volets, les deux pans de satin bleu et glacé qu'une embrase divisait et retenait écartés, l'équivalent de tout cela existait à cet hôtel de Venise, où j'entendais aussi ces mots si particuliers, si éloquents, qui nous font reconnaître de loin la demeure où nous rentrons déjeuner. Et plus tard, reste dans notre souvenir comme un témoignage que pendant un certain temps cette demeure fut la nôtre. Mais le soin de les dire était, à Venise, dévolu, non comme il l'était à Combray et comme il l'est un peu partout, aux choses les plus simples, voire les plus laides, mais à l'ogive, encore à demi arabe, d'une façade qui est reproduite, dans tous les musées de moulage et tous les livres d'art illustré, comme un des chefs-d'œuvre de l'architecture domestique au Moyen-Âge. De bien loin, et quand j'avais à peine dépassé Saint-Georges le Majeur, j'apercevais cette ogive qui m'avait vue, et l'élan de ses arcs brisés ajoutait à son sourire de bienvenue la distinction d'un regard plus élevé et presque incompris. Et parce que, derrière ces balustres de marbre de diverses couleurs, maman lisait en m'attendant, le visage contenu dans une voilette de tulle d'un blanc aussi déchirant que celui de ses cheveux, pour moi, qui sentais que ma mère l'avait, en cachant ses larmes, ajouté à son chapeau de paille, un peu pour avoir l'air habillé devant les gens de l'hôtel, mais surtout pour me paraître moins en deuil, moins triste, presque consolé de la mort de ma grand-mère, parce que, ne m'ayant pas reconnu tout de suite, dès que de la gondole je l'appelais, elle envoyait vers moi, du fond de son cœur, son amour, qui ne s'arrêtait que là où il n'y avait plus de matière pour le soutenir, à la surface de son regard passionné, qu'elle faisait aussi proche de moi que possible, qu'elle cherchait à exaucer, à l'avancée de ses lèvres, en un sourire qui semblait m'embrasser. Dans le cadre et sous le dais du sourire plus discret de l'ogive illuminée par le soleil de midi. À cause de cela, cette fenêtre a pris dans ma mémoire la douceur des choses qui eurent en même temps que nous, à côté de nous, leur part dans une certaine heure qui sonnait, la même pour nous et pour elles. Et si plein de formes admirables que soient ces meneaux, cette fenêtre illustre garde pour moi l'aspect intime d'un homme de génie avec qui nous aurions passé un mois dans une même villégiature, qui aurait contracté pour nous quelque amitié. Et si, depuis, chaque fois que je vois le moulage de cette fenêtre dans un musée, je suis obligée de retenir mes larmes, c'est tout simplement parce qu'elle me dit la chose qui peut le plus me toucher. Je me rappelle très bien votre mère. Et pour aller chercher maman, qui avait quitté la fenêtre, j'avais bien, en laissant la chaleur du plein air, cette sensation de fraîcheur, jadis éprouvée à Combray quand je montais dans ma chambre. Mais à Venise, c'était un courant d'air marin qui l'entretenait. Non plus dans un petit escalier de bois aux marches rapprochées, mais sur les nobles surfaces de degrés de marbre, éclaboussées à tout moment d'un éclair de soleil glauque, et qui, à l'utile leçon de Chardin, reçue autrefois, ajoutait celle de Véronèse. Et puisqu'à Venise, ce sont des œuvres d'art, des choses magnifiques qui sont chargées de nous donner les impressions familières de la vie, c'est esquiver le caractère de cette ville, sous prétexte que la Venise de certains peintres est froidement esthétique dans sa partie la plus célèbre, qu'en représenter seulement, exceptons les superbes études de Maxime de Thomas, les aspects misérables, là où ce qui fait sa splendeur s'efface, et pour rendre Venise plus intime et plus vraie, lui donner de la ressemblance avec Aubervilliers. Ce fut le tort de très grands artistes, par une réaction bien naturelle contre la Venise factice des mauvais peintres, de s'être attachés uniquement à la Venise, qu'ils trouvèrent plus réalistes des humbles campi, des petits riz abandonnés. C'était elle que j'explorais souvent l'après-midi, si je ne sortais pas avec ma mère. J'y trouvais plus facilement, en effet, de ces femmes du peuple, les allumetières, les enfileuses de perles, les travailleuses du verre ou de la dentelle, les petites ouvrières aux grands châles noirs à franges. Ma gondole suivait les petits canaux, comme la main mystérieuse d'un génie qui m'aurait conduit dans les détours de cette ville d'Orient. Il semblait, au fur et à mesure que j'avançais, me pratiquer un chemin creusé en plein cœur d'un quartier qu'il divisait en écartant à peine d'un mince sillon, arbitrairement tracé, les hautes maisons aux petites fenêtres mauresques. Et, comme si le guide magique avait tenu une bougie entre ses doigts et m'eût éclairé au passage, il faisait briller devant eux un rayon de soleil à qui il frayait sa route. On sentait qu'entre les pauvres demeures que le petit canal venait de séparer et qui eussent sans cela formé un tout compact, aucune place n'avait été réservée. De sorte que le campanile de l'église ou les treilles des jardins surplombaient à pic le rio comme dans une ville inondée. Mais pour les églises, comme pour les jardins, grâce à la même transposition que dans le grand canal, la mer se prêtait si bien à faire la fonction de voie de communication, de rue grande ou petite, que de chaque côté du canaletto, les églises montaient de l'eau en ce vieux quartier populaire, devenu des paroisses humbles et fréquentées, portant sur elles le cachet de leurs nécessités, de la fréquentation de nombreuses petites gens. Que les jardins, traversés par la percée du canal, laissaient traîner dans l'eau leurs feuilles ou leurs fruits étonnés, et que, sur le rebord de la maison, dont le grès grossièrement fendu était encore rugueux, comme s'il venait d'être brusquement scié, des gamins, surpris et gardant leur équilibre, laissaient pendre leurs jambes bien d'aplomb, à la façon de matelots assis sur un pont mobile dont les deux moitiés viennent de s'écarter et ont permis à la mer de passer entre elles. Parfois apparaissait un monument plus beau, qui se trouvait là comme une surprise dans une boîte que nous viendrions d'ouvrir. Un petit temple d'ivoire, avec ses ordres corinthiens et sa statue allégorique au fronton. Un peu dépaysé parmi les choses usuelles au milieu desquelles il traînait. Et le péristyle, que lui réservait le canal, gardait l'air d'un quai de débarquement pour maraîcher. Le soleil était encore haut dans le ciel quand j'allais retrouver ma mère sur la piazzetta. Nous remontions le grand canal en gondole, nous regardions la file des palais entre lesquels nous passions, refléter la lumière et l'heure sur leurs flancs rosés, échanger avec elle. Moins à la façon d'habitations privées et de monuments célèbres que comme une chaîne de falaises de marbre au pied de laquelle on va se promener le soir, en barque, pour voir se coucher le soleil. Telles, les demeures disposées des deux côtés du chenal faisaient penser à des sites de la nature, mais d'une nature qui aurait créé ses œuvres avec une imagination humaine. Mais en même temps, à cause du caractère des impressions toujours urbaines que Venise donne presque en pleine mer, sur ces flots où le flux et le reflux se font sentir deux fois par jour, et qui, tour à tour, recouvrent ta marée haute et découvrent ta marée basse, les magnifiques escaliers extérieurs des palais, comme nous l'eussions fait à Paris sur les boulevards, dans les Champs-Élysées, au bois, dans toute large avenue à la mode, parmi la lumière poudroyante du soir, nous croisions les femmes les plus élégantes, presque toutes étrangères, et qui, mollement appuyées sur les coussins de leur équipage flottant, prenaient la file, s'arrêtaient devant un palais où elles avaient une amie à aller voir, faisaient demander si elle était là. Et, tandis qu'en attendant la réponse, elles préparaient à tout hasard leur carte pour la laisser, comme elles eussent fait à la porte de l'hôtel de Guermantes, Elle cherchait dans leur guide de quelle époque, de quel style était le palais. Non sans être secouée comme au sommet d'une vague bleue par le remous de l'eau étincelante et cabrée qui s'effarait d'être resserrée entre la gondole dansante et le marbre retentissant. Et ainsi, les promenades, même rien que pour aller faire des visites ou des courses, étaient triples et uniques dans cette Venise où les simples allées et venues mondaines prennent en même temps la forme et le charme d'une visite à un musée et d'une bordée en mer. Plusieurs des palais du Grand Canal étaient transformés en hôtels, et, par goût du changement ou par amabilité pour Madame Sazera, que nous avions retrouvée, la connaissance imprévue et inopportune qu'on rencontre chaque fois qu'on voyage, et que maman avait invitée, nous voulûmes un soir essayer de dîner dans un hôtel qui n'était pas le nôtre et où l'on prétendait que la cuisine était meilleure. Tandis que ma mère payait le gondolier et entrait avec Madame Sazera dans le salon qu'elle avait retenu, je voulus jeter un coup d'œil sur la grande salle du restaurant aux beaux piliers de marbre et jadis couverte tout entière de fresques, depuis mal restaurée. Deux garçons causaient en un italien que je traduis. « Est-ce que les vieux mangent dans leur chambre? Ils ne préviennent jamais, c'est assommant. Je ne sais jamais si je dois garder leur table. »« Non so se bisogna conservar loro la tavola. » »« Et puis, tant pis s'ils descendent et qu'ils la trouvent prise. Je ne comprends pas qu'on reçoive des forestieri comme ça dans un hôtel aussi chic. C'est pas le monde d'ici. » Malgré son dédain, le garçon aurait voulu savoir ce qu'il devait décider relativement à la table, et il allait faire demander au liftier de monter s'informer à l'étage, quand, avant qu'il en eût le temps, la réponse lui fut donnée. Il venait d'apercevoir la vieille dame qui entrait. Je n'eus pas de peine, malgré l'air de tristesse et de fatigue que donne l'apesantissement des années, et malgré une sorte d'eczéma de lèpre rouge qui couvrait sa figure, à reconnaître sous son bonnet, dans sa cotte noire faite chez W, mais pour les profanes, pareille à celle d'une vieille concierge, la marquise de Villeparisis. Le hasard fit que l'endroit où j'étais, debout, en train d'examiner les vestiges d'une fresque, se trouvait, le long des belles parois de marbre, exactement derrière la table où venait de s'asseoir Madame de Villeparisis. « Alors, Monsieur de Villeparisis ne va pas tarder à descendre. Depuis un mois qu'ils sont ici, ils n'ont mangé qu'une fois l'un sans l'autre, » dit le garçon. Je me demandais quel était celui de ses parents avec lequel elle voyageait et qu'on appelait Monsieur de Villeparisis. Quand je vis, au bout de quelques instants, s'avancer vers la table et s'asseoir à côté d'elle son vieil amant, Monsieur de Norpois. Son grand âge avait affaibli la sonorité de sa voix, mais donnait en revanche à son langage, jadis si plein de réserve, une véritable intempérance. Peut-être fallait-il en chercher la cause dans des ambitions qu'il sentait ne plus avoir grand temps pour réaliser, et qui le remplissait d'autant plus de véhémence et de fougue. Peut-être dans le fait que, laissé à l'écart d'une politique où il brûlait de rentrer, il croyait, dans la naïveté de son désir, faire mettre à la retraite, par les sanglantes critiques qu'il dirigeait contre eux, ceux qu'il se faisait fort de remplacer. Ainsi, voit-on des politiciens assurés que le cabinet dont ils ne font pas partie n'en a pas pour 3 jours. Il serait d'ailleurs exagéré de croire que M. de Norpois avait perdu entièrement les traditions du langage diplomatique. Dès qu'il était question de « grandes affaires », il se retrouvait, on va le voir, l'homme que nous avons connu. Mais le reste du temps, il s'épanchait sur l'un et sur l'autre avec cette violence sénile de certains octogénaires qui les jette sur des femmes à qui ils ne peuvent plus faire grand mal. Madame de Villeparisis garda pendant quelques minutes le silence d'une vieille femme à qui la fatigue de la vieillesse a rendu difficile de remonter du ressouvenir du passé au présent. Puis, dans ces questions toutes pratiques où s'emprunt le prolongement d'un mutuel amour, « Êtes-vous passé chez Salviati ?»«
Oui. »«
En verront-ils demain ?»«
J'ai rapporté moi-même la coupe. Je vous la montrerai après le dîner. Voyons le menu. »
Avez-vous donné l'ordre de bourse pour mes Suez ?
Non, l'attention de la bourse est retenue en ce moment par les valeurs de pétrole. Mais il n'y a pas lieu de se presser, étant donné les excellentes dispositions du marché. Voilà le menu.
Il y a comme entrée des rougets. Voulez-vous que nous en prenions ?
Moi, oui, mais vous, cela vous est défendu. Demandez à la place du risotto.
Mais ils ne savent pas le faire.
« Cela ne fait rien.
Garçon, apportez-nous d'abord des rougets pour madame et un risotto pour moi. »
Un nouveau et long silence.
« Tenez, je vous apporte des journaux. Le Corriere della Sera, la Gazzetta del Popolo, etc. Est-ce que vous savez qu'il est fortement question d'un mouvement diplomatique dont le premier bouc émissaire serait paléologue, notoirement insuffisant en Serbie ? Il serait peut-être remplacé par Lozé, et il y aurait à pourvoir au poste de Constantinople. Mais,
s'empressa d'ajouter avec âcreté M. de Norpois,
pour une ambassade d'une telle envergure, et où il est de toute évidence que la Grande-Bretagne devra toujours, quoi qu'il arrive, avoir la première place à la table des délibérations, il serait prudent de s'adresser à des hommes d'expérience, mieux outillés pour résister aux embûches des ennemis de notre allié britannique, que des diplomates de la jeune école qui donneraient tête baissée dans le panneau. »
La volubilité irritée avec laquelle M. de Norpois prononça ces dernières paroles venait surtout de ce que les journaux, au lieu de prononcer son nom comme il leur avait recommandé de le faire, donnait comme grand favori un jeune ministre des Affaires étrangères.
Dieu sait si les hommes d'âge sont éloignés de se mettre, à la suite de je ne sais quelle manœuvre tortueuse, au lieu et place de plus ou moins incapables recrues. J'en ai beaucoup connu de tous ces prétendus diplomates de la méthode empirique, qui mettaient tout leur espoir dans un ballon d'essai que je ne tardais pas à dégonfler. Il est hors de doute, si le gouvernement a le manque de sagesse de remettre les rênes de l'État en des mains turbulentes, qu'à l'appel du devoir, un conscrit répondra toujours « présent ». Mais qui sait ?
Et M. de Norpois avait l'air de très bien savoir de qui il parlait.
S'il n'en serait pas de même le jour où l'on irait chercher quelques vétérans pleins de savoir et d'adresse.
À mon sens, chacun peut avoir sa manière de voir. Le poste de Constantinople ne devrait être accepté qu'après un règlement de nos difficultés pendantes avec l'Allemagne. Nous ne devons rien à personne, et il est inadmissible que tous les 6 mois on vienne nous réclamer, par des manœuvres dolosives et à notre corps défendant, je ne sais quel quitus, toujours mis en avant par une presse de sportulaires. Il faut que cela finisse. Et naturellement, un homme de haute valeur et qui a fait ses preuves, un homme qui aurait, si je puis dire, l'oreille de l'empereur, jouirait de plus d'autorité que quiconque pour mettre le point final au conflit.
Un monsieur qui finissait de dîner salua M. de Norpois.
« Ah, mais c'est le prince Foggi ? » dit le marquis.
« Ah ! Je ne sais pas au juste ce qui vous voulez dire, » soupira Madame de Villeparisis.
« Mais parfaitement si, c'est le prince Odon, c'est le propre beau-frère de votre cousine Doudoville. Vous vous rappelez bien que j'ai chassé avec lui à Bonnétable. »
« Ah ! Odon, c'est celui qui faisait de la peinture ?»«
Mais pas du tout, c'est celui qui a épousé la sœur du grand-duc N. » Monsieur de Norpois disait tout cela sur le ton assez désagréable d'un professeur mécontent de son élève, et de ses yeux bleus regardait fixement madame de Villeparisis. Quand le prince eut fini son café et quitta sa table, monsieur de Norpois se leva, marcha avec empressement vers lui et, d'un geste majestueux, il s'écarta et, s'effaçant lui-même, le présenta à madame de Villeparisis. Et pendant les quelques minutes que le prince demeura debout auprès d'eux, monsieur de Norpois ne cessa un instant de surveiller madame de Villeparisis de sa pupille bleue, par complaisance ou sévérité de vieil amant, et surtout dans la crainte qu'elle ne se livrât à un des écarts de langage qu'il avait goûté, mais qu'il redoutait. Dès qu'elle disait au prince quelque chose d'inexact, il rectifiait le propos et fixait les yeux de la marquise, accablée et docile, avec l'intensité continue d'un magnétiseur. Un garçon vint me dire que ma mère m'attendait. Je la rejoignis et m'excusai auprès de madame Sazerat en disant que cela m'avait amusé de voir madame de Villeparisis. À ce nom, madame Sazerat pâlit et sembla près de s'évanouir. Cherchant à se dominer, « Madame de Villeparisis, mademoiselle de Bouillon ?» me dit-elle. « Oui. Est-ce que je ne pourrais pas l'apercevoir une seconde? C'est le rêve de ma vie. » « Alors ne perdez pas trop de temps, madame, car elle ne tardera pas à avoir fini de dîner. Mais comment peut-elle tant vous intéresser ?»« Mais, madame de Villeparisis, c'était en première noce la duchesse d'Avray, belle comme un ange, méchante comme un démon, qui a rendu fou mon père, l'a ruiné et abandonné aussitôt après. Eh bien, elle a beau avoir agi avec lui comme la dernière des filles, avoir été cause que j'ai dû, moi et les miens, vivre petitement à Combray. Maintenant que mon père est mort, ma consolation, c'est qu'il ait aimé la plus belle femme de son époque. Et comme je ne l'ai jamais vue, malgré tout, ce sera une douceur. » Je menai madame Sazerat, tremblante d'émotion, jusqu'au restaurant, et je lui montrai madame de Villeparisis. Mais comme les aveugles qui dirigent leurs yeux ailleurs qu'où il faut, madame Sazerat n'arrêta pas ses regards à la table où dînait madame de Villeparisis, et, cherchant un autre point de la salle, « Mais elle doit être partie, je ne la vois pas où vous me dites. » Et elle cherchait toujours, poursuivant la vision détestée, adorée, qui habitait son imagination depuis si longtemps. « Mais si, à la seconde table. » C'est que nous ne comptons pas à partir du même point. Moi, comme je compte, la seconde table, c'est une table où il y a seulement, à côté d'un vieux monsieur, une petite bossue, rougeaude, affreuse. C'est elle. Cependant, madame de Villeparisis, ayant demandé à monsieur de Norpois de faire asseoir le prince Foggi, une aimable conversation suivit entre trois. On parla politique. Le prince déclara qu'il était indifférent au sort du cabinet, et qu'il resterait encore une bonne semaine à Venise. Il espérait que d'ici là, toute crise matérielle serait évitée. Le prince Foggi crut au premier instant que ces questions de politique n'intéressaient pas monsieur de Norpois, car celui-ci, qui jusque-là s'était exprimé avec tant de véhémence, s'était mis soudain à garder un silence presque angélique qui semblait ne pouvoir s'épanouir si la voix revenait, qu'en un chant innocent et mélodieux de Mendelssohn ou de César Franck. Le prince pensait aussi que ce silence était dû à la réserve d'un Français qui, devant un Italien, ne veut pas parler des affaires de l'Italie. Or, l'erreur du prince était complète. Le silence, l'air d'indifférence, était resté chez monsieur de Norpois, non la marque de la réserve, mais le prélude coutumier d'une immixtion dans des affaires importantes. Le marquis n'ambitionnait rien moins, comme nous l'avons vu, que Constantinople, avec un règlement préalable des affaires allemandes pour lequel il comptait forcer la main au cabinet de Rome. Le marquis jugeait, en effet, que de sa part, un acte d'une portée internationale pouvait être le digne couronnement de sa carrière, peut-être même le commencement de nouveaux honneurs, de fonctions difficiles auxquelles il n'avait pas renoncé. Car la vieillesse nous rend d'abord incapables d'entreprendre, mais non de désirer. Ce n'est que dans une troisième période que ceux qui vivent très vieux ont renoncé au désir. Mais ils ont dû abandonner l'action. Ils ne se présentent même plus à des élections futiles où ils tentèrent si souvent de réussir, comme celle de président de la République. Ils se contentent de sortir, de manger, de lire les journaux. Ils se survivent à eux-mêmes. Le prince, pour mettre le marquis à l'aise et lui montrer qu'il le considérait comme un compatriote, se mit à parler des successeurs possibles du président du conseil actuel. Successeur dont la tâche serait difficile. Quand le prince Foggi eut cité plus de 20 noms d'hommes politiques qui lui semblaient ministrables, noms que l'ancien ambassadeur écouta, les paupières à demi abaissées sur ses yeux bleus et sans faire un mouvement, Monsieur de Norpois rompit enfin le silence pour prononcer ces mots qui devaient pendant 20 ans alimenter la conversation des chancelleries et ensuite, quand on les crut oubliés, être exhumés par quelque personnalité signant « un renseigné » ou « testi » ou « Machiavel » dans un journal où l'oubli même où ils étaient tombés leur vaut le bénéfice de faire à nouveau sensation. Donc, le prince Foggi venait de citer plus de 20 noms devant le diplomate aussi immobile et muet qu'un homme sourd. Quand M. de Norpois leva légèrement la tête et, dans la forme où avaient été rédigées ses interventions diplomatiques les plus grosses de conséquences, quoique cette fois-ci avec une audace accrue et une brièveté moindre, demanda finement « Et est-ce que personne n'a prononcé le nom de M. Giolitti ?» À ces mots, les écailles du prince Foggi tombèrent. Il entendit un murmure céleste. Puis aussitôt, M. de Norpois se mit à parler de choses et d'autres, ne craignit pas de faire quelque bruit, comme lorsque la dernière note d'un sublime aria de Bach est terminée, on ne craint plus de parler à haute voix, d'aller chercher ses vêtements au vestiaire. Il rendit même la cassure plus nette en priant le prince de mettre ses hommages aux pieds de leur majesté le roi et la reine quand il aurait l'occasion de les voir. Phrase de départ qui correspondait à ce qu'est, à la fin d'un concert, ces mots hurlés « Le cocher Auguste de la rue de Belloy ». Nous ignorons quelles furent exactement les impressions du prince Foggi. Il était assurément ravi d'avoir entendu ce chef-d'œuvre. « Et M. Giolitti, est-ce que personne n'a prononcé son nom ?» Car M. de Norpois, chez qui l'âge avait éteint ou désordonné les qualités les plus belles, en revanche avait perfectionné, en vieillissant, les airs de bravoure, comme certains musiciens âgés, en déclin pour tout le reste, acquièrent jusqu'au dernier jour, pour la musique de chambre, une virtuosité parfaite qu'ils ne possédaient pas jusque-là. Toujours est-il que le prince Foggi, qui comptait passer 15 jours à Venise, rentra à Rome le jour même et fut reçu quelques jours après en audience par le roi au sujet de propriétés que, nous croyons l'avoir déjà dit, le prince possédait en Sicile. Le cabinet végéta plus longtemps qu'on aurait cru. À sa chute, le roi consulta divers hommes d'État sur le chef qu'il convenait de donner au nouveau cabinet. Puis il fit appeler M. Giolitti, qui accepta. 3 mois après, un journal raconta l'entrevue du prince Foggi avec M. de Norpois. La conversation était rapportée comme nous l'avons fait, avec la différence qu'au lieu de dire Monsieur de Norpois demanda finement. On lisait « Dites avec ce fin et charmant sourire qu'on lui connaît. »
Monsieur de Norpois jugea que « finement » avait déjà une force explosive suffisante pour un diplomate et que cette adjonction était pour le moins intempestive. Il avait bien demandé que le Quai d'Orsay démentît officiellement, mais le Quai d'Orsay ne savait où donner de la tête. En effet, depuis que l'entrevue avait été dévoilée, M. Barrère télégraphiait plusieurs fois par heure avec Paris pour se plaindre qu'il y eût un ambassadeur officieux au Quirinal et pour rapporter le mécontentement que ce fait avait produit dans l'Europe entière. Ce mécontentement n'existait pas, mais les divers ambassadeurs étaient trop polis pour démentir M. Barrère, leur assurant que sûrement tout le monde était révolté. M. Barrère, n'écoutant que sa pensée, prenait ce silence courtois pour une adhésion. Aussitôt, il télégraphiait à Paris. « Je me suis entretenu une heure durant avec le marquis Visconti Venosta, etc. » Ses secrétaires étaient sur les dents. Pourtant, M. de Norpois avait à sa dévotion un très ancien journal français et qui, même en 1870, quand il était ministre de France dans un pays allemand, lui avait rendu grand service. Ce journal était, surtout le premier article, non signé, admirablement rédigé. Mais il intéressait mille fois davantage quand ce premier article, dit « premier Paris » dans ces temps lointains et appelé aujourd'hui, on ne sait pourquoi, « éditorial », était au contraire mal tourné, avec des répétitions de mots infinis. Chacun sentait alors avec émotion que l'article avait été inspiré. Peut-être par M. de Norpois, peut-être par tel autre grand maître de l'heure. Pour donner une idée anticipée des événements d'Italie, montrons comment M. de Norpois se servit de ce journal en 1870. Inutilement, trouvera-t-on, puisque la guerre eut lieu tout de même. « Très efficacement, » pensait M. de Norpois, dont l'axiome était qu'il faut avant tout préparer l'opinion. Ces articles, où chaque mot était pesé, ressemblaient à ces notes optimistes que suit immédiatement la mort du malade. Par exemple, à la veille de la déclaration de guerre, en 1870, quand la mobilisation était presque achevée, M. de Norpois, restant dans l'ombre naturellement, avait cru devoir envoyer à ce journal fameux l'éditorial suivant. L'opinion semble prévaloir dans les cercles autorisés que, depuis hier, dans le milieu de l'après-midi, la situation, sans avoir, bien entendu, un caractère alarmant, pourrait être envisagée comme sérieuse et même, par certains côtés, comme susceptible d'être considéré comme critique. Monsieur le marquis de Norpois aurait eu plusieurs entretiens avec le ministre de Prusse afin d'examiner, dans un esprit de fermeté et de conciliation, et d'une façon tout à fait concrète, les différents motifs de friction existants, si l'on peut parler ainsi. La nouvelle n'a malheureusement pas été reçue par nous, à l'heure où nous mettons sous presse, que leurs excellences aient pu se mettre d'accord sur une formule pouvant servir de base à un instrument diplomatique. Dernière heure. On a appris avec satisfaction dans les cercles bien informés qu'une légère détente semble s'être produite dans les rapports franco-prussiens. On attacherait une importance toute particulière au fait que M. de Norpois aurait rencontré Hunter den Linden, le ministre d'Angleterre, avec qui il s'est entretenu une vingtaine de minutes. Cette nouvelle est considérée comme satisfaisante. On avait ajouté entre parenthèses, après satisfaisante, le mot allemand équivalent, Befriedigen. Et le lendemain, on lisait dans l'éditorial. Il semblerait, malgré toute la souplesse de M. de Norpois,
à qui tout le monde se plaît à rendre hommage pour l'habile énergie avec laquelle il a su défendre les droits imprescriptibles de la France, qu'une rupture n'a plus, pour ainsi dire, presque aucune chance d'être évitée. Le journal ne pouvait pas se dispenser de faire suivre un pareil éditorial de quelques commentaires envoyés, bien entendu, par M. de Norpois. On a peut-être remarqué dans les pages précédentes que le conditionnel était une des formes grammaticales préférées de l'ambassadeur dans la littérature diplomatique. On attacherait une importance particulière pour « il paraît qu'on attache une importance particulière ». Mais le présent de l'indicatif, pris non pas dans son sens habituel, mais dans celui de l'ancien optatif, n'était pas moins cher à M. de Norpois. Les commentaires qui suivaient l'éditorial étaient ceux-ci. Jamais le public n'a fait preuve d'un calme aussi admirable. M. de Norpois aurait bien voulu que ce fût vrai, mais craignait tout le contraire. Il est là des agitations stériles et a appris avec satisfaction que le gouvernement de Sa Majesté prendrait ses responsabilités selon les éventualités qui pourraient se produire. Le public n'en demande, optatif, pas davantage. À son beau sang-froid, qui est déjà un indice de succès, nous ajouterons encore une nouvelle bien faite pour rassurer l'opinion publique, s'il en était besoin. On assure en effet que M. de Norpois, qui, pour raison de santé, devait depuis longtemps venir faire à Paris une petite cure, aurait quitté Berlin, où il ne jugeait plus sa présence utile. Dernière heure. Sa Majesté l'Empereur a quitté ce matin Compiègne pour Paris, afin de conférer avec le marquis de Norpois, le ministre de la guerre et le maréchal Bazaine, en qui l'opinion publique a une confiance particulière. Sa Majesté l'Empereur a décommandé le dîner qu'il devait offrir à sa belle-sœur, la duchesse d'Albe. Cette mesure a produit partout, dès qu'elle a été connue, une impression particulièrement favorable. L'Empereur a passé en revue les troupes, dont l'enthousiasme est indescriptible. Quelques corps, sur un ordre de mobilisation lancé dès l'arrivée des souverains à Paris, sont, à toute éventualité, prêts à partir dans la direction du Rhin. Parfois, au crépuscule, en rentrant à l'hôtel, je sentais que l'Albertine d'autrefois, invisible à moi-même, était pourtant enfermée au fond de moi, comme au plomb d'une Venise intérieure, dont parfois un incident faisait glisser le couvercle durci jusqu'à me donner une ouverture sur ce passé. Ainsi, par exemple, un soir, une lettre de mon coulissier rouvrit un instant pour moi les portes de la prison où Albertine était en moi vivante, mais si loin, si profondément, qu'elle me restait inaccessible. Depuis sa mort, je ne m'étais plus occupé des spéculations que j'avais faites afin d'avoir plus d'argent pour elle. Or, le temps avait passé. De grandes sagesses de l'époque précédente étaient démenties par celle-ci, comme il était arrivé autrefois de M. Thiers, disant que les chemins de fer ne pourraient jamais réussir. Les titres dont M. de Norpois nous avait dit « Leur revenu n'est pas très élevé, sans doute, mais du moins le capital ne sera jamais déprécié » étaient le plus souvent ceux qui avaient le plus baissé. Il me fallait payer des différences considérables, et d'un coup de tête, je me décidai à tout vendre et me trouvai ne plus posséder que le cinquième, à peine, de ce que j'avais du vivant d'Albertine. On le sut à Combray, dans ce qui restait de notre famille et de nos relations. Et, comme on savait que je fréquentais le marquis de Saint-Loup et les Guermantes, on se dit « Voilà où mènent les idées de grandeur !» On y eût été bien étonné d'apprendre que c'était pour une jeune fille de condition aussi modeste qu'Albertine que j'avais fait ces spéculations. D'ailleurs, dans cette vie de Combray où chacun est à jamais classé suivant les revenus qu'on lui connaît, comme dans une caste indienne, on eût pu se faire une idée de cette grande liberté qui régnait dans le monde des Guermantes, où on n'attachait aucune importance à la fortune et où la pauvreté était considérée comme aussi désagréable, mais nullement plus diminuante et n'affectant pas plus la situation sociale qu'une maladie d'estomac. Sans doute se figurait-on, au contraire, à Combray, que Saint-Loup et M. de Guermantes devaient être des nobles ruinés, aux châteaux hypothéqués, à qui je prêtais de l'argent. Tandis que si j'avais été ruiné, ils eussent été les premiers à m'offrir vraiment de venir en aide. Quant à ma ruine relative, j'en étais d'autant plus ennuyé que mes curiosités vénitiennes s'étaient concentrées depuis peu sur une jeune marchande de verrerie, à la carnation de fleurs, qui fournissait aux yeux ravis toute une gamme de tons orangés, et me donnait un tel désir de la revoir chaque jour que, sentant que nous quitterions bientôt Venise, ma mère et moi, j'étais résolue à tâcher de lui faire à Paris une situation quelconque qui me permît de ne pas me séparer d'elle. La beauté de ses 17 ans était si noble, si radieuse, que c'était un vrai Titien à acquérir avant de s'en aller. Et le peu qui me restait de fortune, suffirait-il à la tenter assez pour qu'elle quittât son pays et vint vivre à Paris pour moi seule? Mais comme je finissais la lettre du coulissier, une phrase où il disait « Je soignerai vos reports » me rappela une expression presque aussi hypocritement professionnelle que la baigneuse de Balbec avait employée en parlant à Aimée d'Albertine. « C'est moi qui la soignais », avait-elle dit. Et ces mots, qui ne m'étaient jamais revenus à l'esprit, firent jouer comme un sésame les gonds du cachot. Mais au bout d'un instant, ils se refermèrent sur l'emmuré. Que je n'étais pas coupable de ne pas vouloir rejoindre, puisque je ne parvenais plus à la voir, à me la rappeler, et que les êtres n'existent pour nous que par l'idée que nous avons d'eux. Que m'avait un instant rendu si touchante le délaissement, que pourtant elle ignorait, que j'avais, l'espace d'un éclair, envié le temps déjà lointain où je souffrais nuit et jour du compagnonnage de son souvenir. Une autre fois, à San Giorgio dei Schiavoni, un aigle, auprès d'un des apôtres, et stylisé de la même façon, réveilla le souvenir et presque la souffrance causée par les deux bagues dont Françoise m'avait découvert la similitude et dont je n'avais jamais su qui les avait données à Albertine. Un soir, enfin, une circonstance telle se produisit qu'il sembla que mon amour aurait dû renaître. Au moment où notre gondole s'arrêta aux marches de l'hôtel, le portier me remit une dépêche que l'employé du télégraphe était déjà venu 3 fois pour m'apporter. Car, à cause de l'inexactitude du nom du destinataire, que je compris pourtant, à travers les déformations des employés italiens, être le mien, on demandait un accusé de réception, certifiant que le télégramme était bien pour moi. Je l'ouvris dès que je fus dans ma chambre, et, jetant un coup d'œil sur ce libellé rempli de mots mal transmis, je pus lire néanmoins. « Mon ami, vous me croyez morte. Pardonnez-moi, je suis très vivante. Je voudrais vous voir. Vous parlez mariage. Quand revenez-vous ? Tendrement, Albertine. » Alors, il se passa, d'une façon inverse, la même chose que pour ma grand-mère. Quand j'avais appris en fait que ma grand-mère était morte, je n'avais d'abord eu aucun chagrin, et je n'avais souffert effectivement de sa mort que quand des souvenirs involontaires l'avaient rendue vivante pour moi. Maintenant qu'Albertine, dans ma pensée, ne vivait plus pour moi, la nouvelle qu'elle était vivante ne me causa pas la joie que j'aurais crue. Albertine n'avait été pour moi qu'un faisceau de pensées. Elle avait survécu à sa mort matérielle tant que ses pensées vivaient en moi. En revanche, maintenant que ses pensées étaient mortes, Albertine ne ressuscitait nullement pour moi avec son corps. et en m'apercevant que je n'avais pas de joie qu'elle fût vivante, que je ne l'aimais plus, j'aurais dû être plus bouleversée que quelqu'un qui, se regardant dans une glace après des mois de voyage ou de maladie, s'aperçoit qu'il a des cheveux blancs et une figure nouvelle d'homme mûr ou de vieillard. Cela bouleverse, parce que cela veut dire « L'homme que j'étais, le jeune homme blond, n'existe plus, je suis un autre. » Or, l'impression que j'éprouvais ne prouvait-elle pas un changement aussi profond, une mort aussi totale du moi ancien et la substitution aussi complète d'un moi nouveau à ce moi ancien, que la vue d'un visage ridé surmonté d'une perruque blanche remplaçant le visage de jadis. Mais on ne s'afflige pas plus d'être devenu un autre, les années ayant passé, et dans l'ordre de la succession des temps, qu'on ne s'afflige à une même époque d'être tour à tour les êtres contradictoires, le méchant, le sensible, le délicat, le mufle, le désintéressé, l'ambitieux, qu'on est tour à tour chaque journée. Et la raison pour laquelle on ne s'en afflige pas est la même, c'est que le moi éclipsé, momentanément dans le dernier cas et quand il s'agit du caractère, pour toujours dans le premier cas et quand il s'agit des passions, n'est pas là pour déplorer l'autre, l'autre qui est à ce moment-là, ou désormais, tout vous. Le mufle sourit de sa muflerie, car il est le mufle, et l'oublieux ne s'attriste pas de son manque de mémoire, précisément parce qu'il a oublié. J'aurais été incapable de ressusciter Albertine, parce que je l'étais de me ressusciter moi-même, de ressusciter mon moi d'alors. La vie, selon son habitude, qui est, par des travaux incessants d'infiniment petit, de changer la face du monde, ne m'avait pas dit au lendemain de la mort d'Albertine « Sois un autre ». Mais, par des changements trop imperceptibles pour me permettre de me rendre compte du fait même du changement, avait presque tout renouvelé en moi, de sorte que ma pensée était déjà habituée à son nouveau maître, mon nouveau moi, quand elle s'aperçut qu'il était changé. C'était à celui-ci qu'elle tenait. Ma tendresse pour Albertine, ma jalousie, tenait, on l'a vu, à l'irradiation par association d'idées de certaines impressions douces ou douloureuses, au souvenir de Mademoiselle Vinteuil à Montjouvain, au doux baiser du soir qu'Albertine me donnait dans le cou. Mais au fur et à mesure que ces impressions s'étaient affaiblies, l'immense champ d'impressions qu'elles coloraient d'une teinte angoissante ou douce avait repris des tons neutres. Une fois que l'oubli se fut emparé de quelques points dominants de souffrance et de plaisir, la résistance de mon amour était vaincue. Je n'aimais plus Albertine. J'essayai de me la rappeler. J'avais eu un juste pressentiment quand, 2 jours après le départ d'Albertine, j'avais été épouvantée d'avoir pu vivre 48 heures sans elle. Il en avait été de même quand j'avais écrit autrefois à Gilberte en me disant « Si cela continue 2 ans, je ne l'aimerai plus. » Et si, quand Swann m'avait demandé de revoir Gilberte, cela m'avait paru l'incommodité d'accueillir une morte, pour Albertine, la mort, ou ce que j'avais cru la mort, avait fait la même œuvre que pour Gilberte, la rupture prolongée. La mort n'agit que comme l'absence. Le monstre à l'apparition duquel mon amour avait frissonné, l'oubli, avait bien, comme je l'avais cru, fini par le dévorer. Non seulement cette nouvelle qu'elle était vivante ne réveilla pas mon amour, non seulement elle me permit de constater combien était déjà avancé mon retour vers l'indifférence, mais elle lui fit instantanément subir une accélération si brusque que je me demandai rétrospectivement si jadis la nouvelle contraire, celle de la mort d'Albertine, n'avait pas inversement, en parachevant l'œuvre de son départ, exalté mon amour et retardé son déclin. Et maintenant, que la savoir vivante et pouvoir être réunie à elle me la rendait tout à coup si peu précieuse, je me demandais si les insinuations de Françoise, la rupture elle-même, et jusqu'à la mort, imaginaire mais crue réelle, n'avaient pas prolongé mon amour, tant les efforts des tiers et même du destin, nous séparant d'une femme, ne font que nous attacher à elle. Maintenant, c'était le contraire qui se produisait. D'ailleurs, j'essayais de me la rappeler, et peut-être parce que je n'avais plus qu'un signe à faire pour l'avoir à moi, le souvenir qui me vint fut celui d'une fille fort grosse, homasse, dont le visage fané de laquelle saillait déjà, comme une graine, le profil de Madame Bontemps. Ce qu'elle avait pu faire avec André ou d'autres ne m'intéressait plus. Je ne souffrais plus du mal que j'avais cru si longtemps inguérissable. Et au fond, j'aurais pu le prévoir. Certes, le regret d'une maîtresse, la jalousie survivante, sont des maladies physiques au même titre que la tuberculose ou la leucémie. Pourtant, entre les mots physiques, il y a lieu de distinguer ceux qui sont causés par un agent purement physique et ceux qui n'agissent sur le corps que par l'intermédiaire de l'intelligence. Si la partie de l'intelligence qui sert de lien de transmission est la mémoire, c'est-à-dire si la cause est anéantie ou éloignée, si cruelle que soit la souffrance, si profond que paraisse le trouble apporté dans l'organisme, il est bien rare, la pensée ayant un pouvoir de renouvellement ou plutôt une impuissance de conservation que n'ont pas les tissus, que le pronostic ne soit pas favorable. Au bout du même temps où un malade atteint du cancer sera mort, il est bien rare qu'un veuf, un père inconsolable, ne soit pas guéri. Je l'étais. Est-ce pour cette fille que je revoyais en ce moment si bouffie et qui avait certainement vieilli comme avaient vieilli les filles qu'elle avait aimées? Est-ce pour elle qu'il fallait renoncer à l'éclatante fille qui était mon souvenir d'hier, mon espoir de demain, à qui je ne pourrais rien donner, non plus qu'à aucune autre, si j'épousais Albertine? Renoncer à cette Albertine nouvelle, non point telle que l'ont vu les enfers, mais fidèle et même un peu farouche. C'était elle qui était maintenant ce qu'Albertine avait été autrefois. Mon amour pour Albertine n'avait été qu'une forme passagère de ma dévotion à la jeunesse. Nous croyons aimer une jeune fille, et nous n'aimons, hélas, en elle, que cette aurore dont son visage reflète momentanément la rougeur. La nuit passa. Au matin, je rendis la dépêche au portier de l'hôtel en disant qu'on me l'avait remise par erreur et qu'elle n'était pas pour moi. Il me dit que maintenant qu'elle avait été ouverte, il aurait des difficultés, qu'il valait mieux que je la gardasse. Je la remis dans ma poche, mais je promis de faire comme si je ne l'avais jamais reçue. J'avais définitivement cessé d'aimer Albertine. De sorte que cet amour, après s'être tellement écarté de ce que j'avais prévu d'après mon amour pour Gilberte, après m'avoir fait faire un détour si long et si douloureux, finissait lui aussi, après y avoir fait exception, par rentrer, tout comme mon amour pour Gilberte, dans la loi générale de l'oubli. Mais alors je songeais. Je tenais à Albertine plus qu'à moi-même. Je ne tiens plus à elle maintenant parce que pendant un certain temps j'ai cessé de la voir. Mais mon désir de ne pas être séparé de moi-même par la mort, de ressusciter après la mort, ce désir-là, n'était pas comme le désir de ne jamais être séparé d'Albertine. Il durait toujours. Cela tenait-il à ce que je me croyais plus précieux qu'elle? À ce que, quand je l'aimais, je m'aimais davantage? Non. Cela tenait à ce que, cessant de la voir, j'avais cessé de l'aimer, et que je n'avais pas cessé de m'aimer, parce que mes liens quotidiens avec moi-même n'avaient pas été rompus, comme l'avaient été ceux avec Albertine. Mais si ceux avec mon corps, avec moi-même, l'étaient aussi? Certes, il en serait de même. Notre amour de la vie n'est qu'une vieille liaison dont nous ne savons pas nous débarrasser. Sa force est dans sa permanence. Mais la mort qui la rompt nous guérira du désir de l'immortalité. Après le déjeuner, quand je n'allais pas errer seule dans Venise, je montai me préparer dans ma chambre pour sortir avec ma mère. Aux brusques à-coups des coudes du mur qui lui faisait rentrer ses angles, je sentais les restrictions édictées par la mer, la parcimonie du sol. Et en descendant pour rejoindre maman qui m'attendait, à cette heure où à Combray il faisait si bon goûter le soleil tout proche, dans l'obscurité conservée par les volets clos, ici, du haut en bas de l'escalier de marbre, dont on ne savait pas plus que dans une peinture de la Renaissance s'il était dressé dans un palais ou sur une galère, la même fraîcheur et le même sentiment de la splendeur du dehors étaient donnés grâce au vélum qui se mouvait devant les fenêtres perpétuellement ouvertes et par lesquelles, dans un incessant courant d'air, l'ombre tiède et le soleil verdâtre filaient comme sur une surface flottante et évoquaient le voisinage mobile, l'illumination, la miroitante instabilité du flot. Le soir, je sortais seule, au milieu de la ville enchantée où je me trouvais au milieu de quartiers nouveaux, comme un personnage des mille et une nuits. Il était bien rare que je ne découvrisse pas, au hasard de mes promenades, quelques places inconnues et spacieuses dont aucun guide, aucun voyageur ne m'avait parlé. Je m'étais engagée dans un réseau de petites ruelles, de calli, divisant en tous sens, de leurs rainures, le morceau de Venise découpé entre un canal et la lagune, comme s'il avait cristallisé, suivant ses formes innombrables, ténues et minutieuses. Tout à coup, au bout d'une de ces petites rues, il semblait que dans la matière cristallisée se fût produite une distension. Un vaste et somptueux campo, à qui je n'eusse assurément pas, dans ce réseau de petites rues, pu deviner cette importance, ni même trouver une place, s'étendait devant moi, entouré de charmants palais pâles de clair de lune. C'était un de ces ensembles architecturaux vers lesquels, dans une autre ville, les rues se dirigent, vous conduisent et le désignent. Ici, il semblait exprès caché dans un entrecroisement de ruelles, comme ces palais des contes orientaux où on mène la nuit un personnage qui, ramené chez lui avant le jour, ne doit pas pouvoir retrouver la demeure magique, où il finit par croire qu'il n'est allé qu'en rêve. Le lendemain, je partais à la recherche de ma belle place nocturne. Je suivais des calli, qui se ressemblaient toutes, et se refusaient à me donner le moindre renseignement, sauf pour m'égarer mieux. Parfois, un vague indice que je croyais reconnaître me faisait supposer que j'allais voir apparaître, dans sa claustration, sa solitude et son silence, la belle place exilée. À ce moment, quelque mauvais génie qui avait pris l'apparence d'une nouvelle calée me faisait rebrousser chemin malgré moi, et je me trouvais brusquement ramené au grand canal. Et comme il n'y a pas, entre le souvenir d'un rêve et le souvenir d'une réalité, de grandes différences, je finissais par me demander si ce n'était pas pendant mon sommeil que s'était produit, dans un sombre morceau de cristallisation vénitienne, cet étrange flottement qui offrait une vaste place, entourée de palais romantiques, à la méditation du clair de lune. La veille de notre départ, nous voulûmes pousser jusqu'à Padoue, où se trouvaient ces vices et ces vertus dont Swann m'avait donné les reproductions. Après avoir traversé en plein soleil le jardin de la reine, j'entrai dans la chapelle des Giotto, où la voûte entière et le fond des fresques sont si bleus qu'il semble que la radieuse journée ait passé le seuil, elle aussi, avec le visiteur, et soit venue un instant mettre à l'ombre et au frais son ciel pur, à peine un peu plus foncé d'être débarrassé des dorures de la lumière. Comme en ces courts répits dont s'interrompent les plus beaux jours quand, sans qu'on ait vu aucun nuage, le soleil ayant tourné son regard ailleurs pour un moment, l'azur, plus doux encore, s'assombrit. Dans ce ciel, sur la pierre bleuie, des anges volaient avec une telle ardeur céleste, ou au moins enfantine, qu'ils semblaient des volatiles d'une espèce particulière ayant existé réellement, ayant dû figurer dans l'histoire naturelle des temps bibliques et évangéliques, et qui ne manquent pas de voler devant les saints quand ceux-ci se promènent. Il y en a toujours quelques-uns de lâchés au-dessus d'eux, et, comme ce sont des créatures réelles et effectivement volantes, on les voit s'élevant, décrivant des courbes, mettant la plus grande aisance à exécuter des loopings, fondant vers le sol, la tête en bas, à grand renfort d'ailes qui leur permettent de se maintenir dans des conditions contraires aux lois de la pesanteur. Et ils font beaucoup plus penser à une variété d'oiseaux, ou à de jeunes élèves de garrot s'exerçant au vol plané, qu'aux anges de l'art de la Renaissance et des époques suivantes, dont les ailes ne sont plus que des emblèmes, et dont le maintien est habituellement le même que celui des personnages célestes qui ne seraient pas ailés. Quand j'appris, le jour même où nous allions rentrer à Paris, que Madame Pulbu, et par conséquent sa femme de chambre, venait d'arriver à Venise, je demandai à ma mère de remettre notre départ de quelques jours. L'air qu'elle eut de ne pas prendre ma prière en considération, ni même au sérieux, réveilla dans mes nerfs excités par le printemps vénitien ce vieux désir de résistance à un complot imaginaire tramé contre moi par mes parents, qui se figuraient que je serais bien forcé d'obéir. Cette volonté de lutte, ce désir qui me poussait jadis à imposer brusquement ma volonté à ceux que j'aimais le plus, quitte à me conformer à la leur après que j'avais réussi à les faire céder. Je dis à ma mère que je ne partirai pas, mais elle, croyant plus habile de ne pas avoir l'air de penser que je disais cela sérieusement, ne me répondit même pas. Je repris qu'elle verrait bien si c'était sérieux ou non. Et quand fut venue l'heure où, suivie de toutes mes affaires, elle partit pour la gare, je me fis apporter une consommation sur la terrasse, devant le canal, et m'y installai, regardant se coucher le soleil, tandis que sur une barque arrêtée en face de l'hôtel, un musicien chantait « Sole mio ». Le soleil continuait de descendre. Ma mère ne devait pas être loin de la gare. Bientôt, elle serait partie. Je serai seule à Venise, seule avec la tristesse de la savoir peinée par moi et sans sa présence pour me consoler. L'heure du train approchait. Ma solitude irrévocable était si prochaine qu'elle me semblait déjà commencée et totale, car je me sentais seule. Les choses m'étaient devenues étrangères. Je n'avais plus assez de calme pour sortir de mon cœur palpitant et introduire en elle quelque stabilité. La ville que j'avais devant moi avait cessé d'être Venise. Sa personnalité, son nom, me semblaient comme des fictions menteuses que je n'avais plus le courage d'inculquer aux pierres. Les palais m'apparaissaient réduits à leur simple partie, quantité de marbre pareilles à toutes les autres. Et l'eau comme une combinaison d'hydrogène et d'oxygène, éternelle, aveugle, antérieure et extérieure à Venise, ignorante des doges et de Turner. Et cependant, ce lieu quelconque était étrange, comme un lieu où on vient d'arriver, qui ne vous connaît pas encore, comme un lieu d'où l'on est parti et qui vous a déjà oublié. Je ne pouvais plus rien lui dire de moi. Je ne pouvais rien laissait de moi poser sur lui. Il me laissait contracter. Je n'étais plus qu'un cœur qui battait et qu'une attention suivant anxieusement le développement de Sole mio. J'avais beau raccrocher désespérément ma pensée à la belle coudée caractéristique du Rialto, il m'apparaissait, avec la médiocrité de l'évidence, comme un pont non seulement inférieur, mais aussi étranger à l'idée que j'avais de lui qu'un acteur, dont, malgré sa perruque blonde et son vêtement noir, nous savons bien qu'en son essence, il n'est pas Hamlet. Tels les palais, le canal, le Rialto, se trouvaient dévêtus de l'idée qui faisait leur individualité et dissous en leurs vulgaires éléments matériels. Mais en même temps, ce lieu médiocre me semblait lointain. Dans le bassin de l'Arsenal, à cause d'un élément scientifique lui aussi, la latitude, il y avait cette singularité des choses qui, même semblables en apparence à celles de notre pays, se révèlent étrangères, en exil sous d'autres cieux. Je sentais que cet horizon si voisin, que j'aurais pu atteindre en une heure, c'était une courbure de la terre, tout autre que celle des mers de France, une courbure lointaine qui se trouvait, par l'artifice du voyage, amarrée près de moi. Si bien que ce bassin de l'Arsenal, à la fois insignifiant et lointain, me remplissait de ce mélange de dégoût et d'effroi que j'avais éprouvé tout enfant la première fois que j'accompagnais ma mère au bain des Lignies. En effet, dans le site fantastique composé par une eau sombre que ne couvrait pas le ciel ni le soleil, et que cependant, borné par des cabines, on sentait communiquer avec d'invisibles profondeurs couvertes de corps humains en caleçon, je m'étais demandé si ces profondeurs, cachées aux mortels par des baraquements qui ne les laissaient pas soupçonner de la rue, n'étaient pas l'entrée des mers glaciales qui commençaient là, si les pôles n'y étaient pas compris, et si cet étroit espace n'était pas précisément la mer libre du pôle. Cette Venise, sans sympathie pour moi, où j'allais rester seule, ne me semblait pas moins isolée, moins irréelle, et c'était ma détresse que le chant de Sole Mio s'élevant comme une déploration de la Venise que j'avais connue, semblait prendre à témoin. Sans doute, il aurait fallu cesser de l'écouter si j'avais voulu pouvoir rejoindre encore ma mère et prendre le train avec elle. Il aurait fallu décider sans perdre une seconde que je partais. Mais c'est justement ce que je ne pouvais pas. Je restais immobile, sans être capable non seulement de me lever, mais même de décider que je me lèverais. Ma pensée, sans doute pour ne pas envisager une résolution à prendre, s'occupait tout entière à suivre le déroulement des phrases successives de Sole Mio, en chantant mentalement avec le chanteur, à prévoir pour chacune d'elles l'élan qui allait l'emporter, à m'y laisser aller avec elle aussi, à retomber ensuite. Sans doute, ce chant insignifiant, entendu 100 fois, ne m'intéressait nullement. Je ne pouvais faire plaisir à personne, ni à moi-même, en l'écoutant aussi religieusement jusqu'au bout. Enfin, aucun des motifs, connus d'avance par moi, de cette vulgaire romance, ne pouvait me fournir la résolution dont j'avais besoin. Bien plus, chacune de ces phrases, quand elle passait à son tour, devenait un obstacle à prendre efficacement cette résolution. Ou plutôt, elle m'obligeait à la résolution contraire de ne pas partir, car elle me faisait passer l'heure. Par là, cette occupation sans plaisir en elle-même d'écouter Sole Mio se chargeait d'une tristesse profonde, presque désespérée. Je sentais bien qu'en réalité, c'était la résolution de ne pas partir que je prenais par le fait de rester là sans bouger. Mais me dire « je ne pars pas », qui ne m'était pas possible sous cette forme directe, me le devenait sous cette autre. Je vais entendre encore une phrase de Sole Mio. Mais la signification pratique de ce langage figuré ne m'échappait pas, et, tout en me disant « je ne fais en somme qu'écouter une phrase de plus », je savais que cela voulait dire « je resterai seule à Venise ». et c'est peut-être cette tristesse, comme une sorte de froid engourdissant, qui faisait le charme désespéré, mais fascinateur de ce chant. Chaque note que lançait la voix du chanteur, avec une force et une ostentation presque musculaire, venait me frapper en plein cœur. Quand la phrase était consommée et que le morceau semblait fini, le chanteur n'en avait pas assez et reprenait plus haut comme s'il avait besoin de proclamer une fois de plus ma solitude et mon désespoir. Ma mère devait être arrivée à la gare. Bientôt elle serait partie. J'étais étreint par l'angoisse que me causait, avec la vue du canal devenu tout petit depuis que l'âme de Venise s'en était échappée, de ce rialto banal qui n'était plus le rialto, ce chant de désespoir que devenait Sole Mio et qui, ainsi clamé devant les palais inconsistants, achevait de les mettre en miettes et consommait la ruine de Venise. J'assistais à la lente réalisation de mon malheur, construit artistement, sans hâte, note par note, par le chanteur, que regardait avec étonnement le soleil arrêté derrière Saint-Georges le Majeur. Si bien que cette lumière crépusculaire devait faire à jamais dans ma mémoire, avec le frisson de mon émotion et la voix de bronze du chanteur, un alliage équivoque, immuable et poignant. Ainsi restais-je immobile, avec une volonté dissoute, sans décision apparente. Sans doute, à ces moments-là, elle est déjà prise. Nos amis eux-mêmes peuvent souvent la prévoir, mais nous, nous ne le pouvons pas. Sans quoi, tant de souffrances nous seraient épargnées. Mais enfin, d'antre plus obscur que ceux d'où s'élance la comète qu'on peut prédire, grâce à l'insoupçonnable puissance défensive de l'habitude invétérée, grâce aux réserves cachées que par une impulsion subite elle jette au dernier moment dans la mêlée, mon action surgit enfin. Je pris mes jambes à mon cou et j'arrivais, les portières déjà fermées, mais à temps pour retrouver ma mère, rouge d'émotion, se retenant pour ne pas pleurer, car elle croyait que je ne viendrais plus. Puis le train partit, et nous vîmes Padoue et Vérone venir au-devant de nous, nous dire adieu, presque jusqu'à la gare, et, quand nous nous fûmes éloignés, regagner, elles qui ne partaient pas et allaient reprendre leur vie, l'une sa plaine, l'autre sa colline. Les heures passaient. Ma mère ne se pressait pas de lire deux lettres qu'elle tenait à la main, et avait seulement ouverte et tâché que moi-même je ne tirasse pas tout de suite mon portefeuille pour y prendre celle que le concierge de l'hôtel m'avait remise. Ma mère craignait toujours que je ne trouvasse les voyages trop longs, trop fatigants, et reculait le plus tard possible pour m'occuper pendant les dernières heures le moment où elle chercherait pour moi de nouvelles distractions, déballerait les œufs durs, me passerait les journaux, déferait le paquet de livres qu'elle avait acheté sans me le dire. Nous avions traversé Milan depuis longtemps lorsqu'elle se décida à lire la première des deux lettres. Je regardai d'abord ma mère qui la lisait avec étonnement, puis levait la tête et ses yeux semblaient se poser tour à tour sur des souvenirs distincts, incompatibles et qu'elle ne pouvait parvenir à rapprocher. Cependant, j'avais reconnu l'écriture de Gilberte sur l'enveloppe que je venais de prendre dans mon portefeuille. Je l'ouvris. Gilberte m'annonçait son mariage avec Robert de Saint-Loup. Elle me disait qu'elle m'avait télégraphié à ce sujet à Venise et n'avait pas eu de réponse. Je me rappelais comme on m'avait dit que le service des télégraphes y était mal fait. Je n'avais jamais eu sa dépêche. Peut-être ne voudrait-elle pas le croire. Tout d'un coup, je sentis dans mon cerveau un fait qui était installé à l'écart du souvenir, quitter sa place et la céder à un autre. La dépêche que j'avais reçue dernièrement et que j'avais crue d'Albertine était de Gilberte. Comme l'originalité assez factice de l'écriture de Gilberte consistait principalement quand elle écrivait une ligne, à faire figurer dans la ligne supérieure les barres de T qui avaient l'air de souligner les mots, ou les points sur les I qui avaient l'air d'interrompre les phrases de la ligne d'au-dessus, et en revanche à intercaler dans la ligne d'au-dessous les queues et arabesques des mots qui leur étaient superposés. Il était tout naturel que l'employé du télégraphe eût lu les boucles d'S ou de Z de la ligne supérieure comme un « in » finissant le mot de Gilberte. Le point sur l'i de Gilberte était monté au-dessus, faire point de suspension. Quant à son G, il avait l'air d'un A gothique. Qu'en dehors de cela, deux ou trois mots eussent été mal lus, pris les uns dans les autres, certains d'ailleurs m'avaient paru incompréhensibles. Cela était suffisant pour expliquer les détails de mon erreur, et n'était même pas nécessaire. Combien de lettres lit dans un mot une personne distraite, et surtout prévenue, qui part de l'idée que la lettre est d'une certaine personne? Combien de mots dans la phrase? On devine en lisant, on crée. Tout part d'une erreur initiale. Celles qui suivent, et ce n'est pas seulement dans la lecture des lettres et des télégrammes, pas seulement dans toute lecture. Si extraordinaire qu'elle puisse paraître à celui qui n'a pas le même point de départ, sont toutes naturelles. Une bonne partie de ce que nous croyons, et jusque dans les conclusions dernières, c'est ainsi, avec un entêtement et une bonne foi égales, vient d'une première méprise sur les prémices.